Le journal des sciences.
Et pour commencer, l'Organisation mondiale de la santé enquête en Afrique de l'Ouest, au Liberia précisément, après la mort de 12 personnes en 10 jours, 12 personnes mortes d'une mystérieuse maladie qui n'est pas le virus Ebola.
Non, ni Ebola, ni la fièvre de Lassa, puisque les tests menés par les autorités sanitaires du Liberia sont négatifs, et c'est donc toujours la perplexité face à cette affection contractée apparemment lors de funérailles dans une ville du Sud qui présente des symptômes assez semblables à la grippe, des fièvres, des vomissements, des maux de tête, des diarrhées, mais des symptômes mortels après 2 jours et puis qui ne correspondent à rien de connu jusqu'à ce jour. L'OMS a donc supervisé l'envoi d'échantillons de sang aux États-Unis dans le Center for Disease Control d'Atlanta, mais contacté, aucune des deux institutions n'a pu donner plus de précisions. Les tests, disent-ils, pourraient prendre quelques semaines. Alors s'agit-il de virus, de bactéries? 2 ans en tout cas après la fin de l'épidémie d'Ebola. Faut-il s'inquiéter d'une nouvelle épidémie? La maladie n'est pas contagieuse, a répondu le ministère de la Santé aux inquiétudes après que 2 personnes sont mortes hors du foyer principal à l'hôpital de Monrovia, la capitale, et elles seraient même 13 ou 14, disait hier son directeur Senga Omeonga.
Jusqu'à là, on n'en sait rien, mais tout ce qu'on est sûr que ce n'est pas Ebola, parce que Ebola ne tue pas aussi rapidement. Parce que ce qu'on sait, qu'il y a eu des funérailles le 23 avril, et le premier cas de fatalité a commencé le 25, donc 2 jours après les funérailles. Donc c'est trop rapide, Ebola ne tue pas aussi rapidement comme ça. Et ça n'a pas les symptômes vraiment d'Ebola. Et tous les tests qui ont été faits n'ont pas confirmé Ebola. La maladie, c'est seulement les gens qui ont participé à ces funérailles. Ça ne va pas au-delà de ce cercle. Même si le cas qui est mort ici à l'hôpital chez nous, le malade est venu le matin, il était déjà dans un état d'inconscience. Même si nous avons pris des précautions pour ne pas toucher, porter les gants, ceci, cela, toutes les précautions de prévention, on n'a pas vu des cas qui ont été cités dans la famille. On n'est pas très inquiet, on est maintenant beaucoup plus préparé qu'avant Ebola. Nous prenons toutes nos dispositions quand il s'agit de prévention pour les malades qui arrivent. Nous les trions rigoureusement en posant toutes les questions, parce que nous savons que parfois les malades, quand ils viennent, ils ne donnent pas leur histoire vraie, sinon jusqu'à là. Nous espérons qu'avant la fin de la semaine prochaine, nous aurons des résultats.
Voilà, et on va suivre évidemment les études et les recherches autour de cette mystérieuse maladie. En bref, Xavier, cette fois on est sûr qu'il s'agit d'un virus, c'est un nouveau virus qui est capable d'agir à distance comme une télécommande.
Et oui, le Nouméa virus, un virus géant qui vient de Nouvelle-Calédonie, parce que c'est dans une mare de cette île qu'il a été repéré. Il apporte une donnée inédite en effet sur le mode de reproduction des virus, puisque d'habitude, une fois dans la cellule voulue, ou bien il vole en quelque sorte son matériau génétique dans le noyau pour reproduire leur propre ADN, ou bien quand ils ne peuvent pas entrer dans le noyau, eh bien ils emportent avec eux les enzymes nécessaires. Le Nouméa virus, lui, récupère ces enzymes tout en restant dans la cellule, en ouvrant en fait ou en fermant les pores de la cellule avec un genre de zapette, disent les scientifiques qui ont pratiqué une sorte de dissection moléculaire. Pour l'instant, on ne sait pas comment. Selon Jean-Michel Clavry du CNRS Marseille, je le cite, on est à l'aube d'une grande découverte.
Et puis une première mondiale, pour la première fois donc, pour protéger la santé de sa population, le Salvador ferme ses mines de métaux.
Et oui, c'est une loi anti-pollution en vigueur depuis une semaine qui interdit, je cite cette loi, toute extraction ou traitement de produits miniers métalliques. Une loi qui viendra mettre fin aux procès à répétition depuis que le pays tente de limiter cette activité minière non contrôlée et responsable d'une pollution endémique, notamment au cyanure. Selon les ONG, en 2013, au moins 500 enfants mouraient chaque année et beaucoup avançaient le chiffre d'une pollution des eaux à 100%.
Deuxième sujet du jour, après une manœuvre en orbite remarquée la semaine dernière, dont nous vous avions parlé dans le journal des sciences d'ailleurs, la Chine met maintenant l'accent sur sa future station spatiale qui sera habitée et qui est prévue à l'horizon 2022.
Oui, toute la presse parle de cette station dont la construction devrait commencer en 2019. Depuis en effet que le 27 mars, l'Agence spatiale nationale de Chine a réussi pour la première fois à effectuer des manœuvres d'arrimage et de ravitaillement automatique en orbite, étape cruciale pour utiliser une station spatiale. L'aérospatiale de Chine est entrée dans l'ère de la station spatiale, annonce Chine Magazine. Alors pour les vols habités, la Chine a commencé en 2003. Elle a poursuivi l'année dernière, d'ailleurs avec plus d'un mois de séjour pour 2 taïkonautes, le plus long séjour. Mais elle est quand même en retard d'un an par rapport à la date prévue. Écoutez ce qu'en pense la spécialiste des politiques spatiales au CNRS, Isabelle Sourbès-Verger.
En fait,
fait, l'amarrage qu'a fait la Chine, c'est l'étape totalement obligée. Ils avaient déjà fait un amarrage dans le cadre de la première station spatiale Tiangong 1. Ils en font un dans le cadre de la deuxième. Sauf que là, c'est un cargo. Et effectivement, c'est la première fois qu'ils sont capables, je dirais, de donner à la station les moyens de poursuivre sa vie en orbite avec à la fois des ressources en fioul qui lui permettent de restabiliser son orbite. Et puis ensuite, quand il y aura des hommes à bord, des systèmes de recyclage et de ressources en oxygène et autres qui leur permettront de vivre. Après, ce que fait le cargo est moins perfectionné en termes de technologie, de mode d'amarrage et même de capacité que ce que faisait l'ATV, qui était le vaisseau de transfert européen qui a servi à ravitailler la station spatiale internationale. Après, on ne sait pas ce que va devenir l'ISS après 2024. Les Russes disent qu'ils veulent maintenir et préserver leurs modules et éventuellement les reconfigurer pour rester en orbite si les Américains et les Européens, eux, se retiraient. On peut imaginer qu'il y ait une coopération entre les Russes et les Chinois.
Il reste maintenant à lancer cette nouvelle station. Ce sera à partir de 2019. Est-ce qu'on sait déjà à quoi elle va ressembler, Xavier ?
Apparemment, elle sera plus petite que la station spatiale internationale. Environ 90 tonnes contre 400 pour la grosse actuelle. Selon l'agence spatiale chinoise toujours, elle sera composée de 3 modules et pourra accueillir 3 taïkonautes pendant 3 à 6 mois. En fait, elle devrait ressembler à ce qu'était un peu la Mir russe en T, mais plus petite, tout en ayant les dimensions du premier Skylab américain des années 70. Le module principal sera donc lancé en 2019, suivi de 2 autres. La station devrait durer au moins 20 ans et plusieurs vols habités, évidemment, avec sortie dans l'espace sont prévus d'ici 2022. Enfin, avec cette station, il y a un aspect diplomatique. La Chine pourrait développer plus de coopération scientifique, explique Grégory Koulaki. Il est expert de la politique spatiale chinoise auprès de l'Union des Concerned Scientists américains.
D'après ce que nous ont dit nos collègues chinois, le vol habité reste un sujet controversé. Les scientifiques chinois, comme la plupart dans le monde, préféreraient voir plus d'argent mis sur les missions robotisées et sur les objectifs scientifiques purs. Et c'est vrai qu'en termes de budget spatial, la plus grande priorité pour les autorités chinoises, ce sont les satellites de navigation, d'observation de la Terre, de communication, ce genre de choses qui peuvent être immédiatement valorisées ici, sur Terre. Cela dit, les progrès de la Chine sont constants. C'est un peu plus lent que ce qu'ils avaient prévu, mais je pense que dans les premières années de la prochaine décennie, la Chine disposera d'une station spatiale complètement opérationnelle pour des taïkonautes, mais aussi pour les astronautes des autres pays. Et à mon avis, un des éléments les plus importants ici, c'est que ce sera aussi la période où la station spatiale internationale atteindra la limite de sa vie en service. Et donc, il se pourrait que la Chine soit à ce moment-là le seul pays à opérer une station spatiale en orbite vers la fin des années 2020.
En bref, c'est la fin, le futur grand plongeon pour la sonde Cassini autour de Saturne, avec une première surprise à la clé entre Saturne et ses anneaux, du vide.
Et oui, c'est le grand vide apparemment, c'est ce qu'a annoncé le chef de la mission Cassini à la NASA. Alors que les astronomes s'attendaient à des poussières de particules très denses, finalement près de cet anneau, c'est finalement un espace beaucoup moins chargé qu'a traversé la sonde Cassini. On n'a pas entendu ce qu'on attendait, ajoute un autre scientifique, puisque les données captées sont en fait des ondes radio et ondes plasma provoquées par les chocs des particules sur les antennes, transcrites informatiquement en une bande-son qui est plutôt angoissante à l'écoute. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les ingénieurs de vol, puisque les risques de collision sont réduits.
Voilà, et on parlera de Saturne et de Cassini dans la méthode scientifique. Mardi prochain, une autre découverte, celle d'un fossile très rare près d'Angers. Une découverte qualifiée d'exceptionnelle qui vient éclairer les fonds marins anciens.
Oui, puisqu'il s'agit d'un fossile de plésiosaure, une espèce de saurien proche de la tortue, en fait une sorte de prédinosaure, et qui présente une grande diversité d'espèces avec des coups plus ou moins longs notamment. Celui-ci, trouvé dans une cave du Maine-et-Loire, effectivement mesurait 5 à 6 mètres et vivait il y a 90 millions d'années. Et puis surtout, c'est la première fois qu'on en trouve un aussi complet pour cette époque en Europe. Cela change beaucoup de choses, dit un scientifique du Musée National d'Histoire Naturelle. C'est probable qu'il s'agisse d'une nouvelle espèce. Si c'est une espèce, continue-t-il, qui existe déjà, ça veut dire qu'il y a eu des migrations.
Et pour conclure par notre rubrique de science improbable, comme chaque chaque semaine, quand l'intelligence artificielle écrit un scénario de fiction, eh bien ça donne un film avec David Hasselhoff, le héros de K2000 et de Alerte à Malibu.
Oui, d'ailleurs, It's No Game, ce n'est pas un jeu, c'est le titre assez prophétique de ce film tourné par des humains, mais écrit effectivement par ce programme d'intelligence artificielle qui s'appelle Benjamin, programme du réalisateur Oscar Sharp et de l'informaticien Ross Godwin, premier scénariste automatique, comme il l'appelle. Alors après un film déjà curieux, voire inquiétant lui aussi, à cause de ses dialogues ressemblant à des mélanges de séries et de conversations avec Siri, et puis des situations plus que kafkaïennes, cette fois c'est un scénario construit qui a été tourné dans It's Not a Game, avec bien sûr David Hasselhoff, l'acteur d'Alerte à Malibu et de K2000, et puis cette fois le programme Benjamin a été perfectionné en utilisant 6 différents modèles d'écriture, y compris en utilisant les sous-titres. Résultat, ce scénario crédible mais glaçant, puisque les scénaristes doivent être remplacés par des intelligences artificielles. Le jeu des acteurs pour coller au dialogue, lui, est plus que perturbant. Et le programme est même le premier chorégraphe automatique, puisqu'il comporte une séquence de danse.